Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Le chant de l'arc, voici ce que nous commentons maintenant au début du deuxième livre de Samuel. C'est cette complainte merveilleuse et à la fois rude et tendre de David à la mort de Saül, le roi précédent, et de son fils Jonathan. Le refrain revient, d'après les strophes que nous avons déjà eu l'occasion de lire, et le refrain revient, comment sont tombés les héros au milieu du combat? Comment est-il possible? Et donc la dernière strophe de la complainte arrive, la plus émouvante, digne de figurer parmi les plus belles de toute la poésie, et celle qui chante l'amitié de David pour Jonathan. Et là, voici cette strophe bien connue. Jonathan, par ta mort, je suis navré. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher. Ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Et si l'on peut penser que toute la complainte est authentique, la dernière strophe est encore plus sûrement sortie du cœur de David. On peut traduire l'hébreu au plus près de la sorte, « Angoisse en moi sur toi, mon frère Jonathan ». L'angoisse, c'est en nous le sentiment qui nous resserre le cœur. L'amour, dans la présence de l'aimé, nous dilate au contraire. Mais la séparation et le deuil font que le cœur se ramasse et se rétrécit de douleur. L'apostrophe « mon frère Jonathan » est poignante. Elle annonce le chagrin de David au moment où il apprend la mort de son fils, devenu son ennemi, Absalom. Et lorsqu'il apprend sa mort, il dit ceci, cette formule, au deuxième livre de Samuel, au chapitre 19. « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Le latin de la Nouvelle Vulgate rend fort bien l'original. « Suavis nimis mihi, exqui à moi beaucoup. » Littéralement, « exqui à moi beaucoup. » Tu m'étais douceur, charme, beauté, joie, bonheur. Et quelle déclaration d'amitié! Car il s'agit en effet de ce sentiment si pur et si fort qui fait l'honneur de la vie humaine, l'amitié, sentiment qui ne comporte pas la passion sexuelle, mais se porte d'emblée à l'âme, âme, amitié, avec une grande délicatesse. D'où le vers suivant. Merveilleux pour moi ton amour, littéralement, plus que l'amour des femmes. On se demande comment un tel cri du cœur de David a pu parfois être dénaturé. Évidemment, les femmes risquent de ne pas prendre pour un compliment cette préférence du héros pour son ami intime. Et il est facile à partir de là d'en venir à soupçonner une affection malsaine, ce qui est un contresens affligeant. Toute l'histoire de David montre avec évidence qu'il aimait les femmes et qu'il en était aimé. Et nous le verrons bientôt lors de l'épisode de l'adultère avec Bethsabée. Non, David n'aimait pas Jonathan comme on aime une femme. Sa douleur l'a seulement amené à chanter la force et la qualité de son attachement pour son ami jusqu'à l'exalter au-dessus du lien conjugal. L'amour des époux et l'amour des amis n'est pas du même ordre, ou tout au moins son mode d'expression est différent. Les conjoints expriment et nourrissent leur communion d'âme par l'union de leur corps, ce qui est leur privilège. Il faut toutefois remarquer ceci, même dans le mariage, ce qui est final, c'est l'union des âmes. Parce que s'il y a l'union des corps sans l'union des âmes, c'est uniquement d'un adultère ou bien de la pornographie ou tout ce qu'on veut, c'est pas humain, et c'est pas proprement et profondément humain. Et donc dans le mariage, ce qui est final, c'est donc l'union des âmes. L'amitié n'engage pas le corps en ses puissances sexuelles, elle n'ignore pas pour autant la beauté du visage ou la noblesse des manières, ni une certaine séduction de la personne aimée. Mais elle est attirée d'abord par le charme d'une âme, manifesté surtout par la qualité et la profondeur du regard. Et l'ancienne Vulgate ajoute à l'hébreu la phrase suivante: Sicud mater unicum amat filium suum, ita ego te diligebam. Littéralement, comme une mère aime son fils unique, ainsi je te chérissais. Cette addition, qui n'est pas authentique, a le mérite de montrer, par une comparaison au-dessus de tout soupçon, la pureté de l'affection de David pour Jonathan. Et nous savons que Dieu lui-même prend à témoin l'affection maternelle, qui est inconditionnelle, pour dire la fidélité absolue de la sienne. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. C'est dans Isaïe au chapitre 49. La tendresse paternelle est aussi l'image de celle de Dieu, selon ses paroles transmises par le prophète Osée au chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte j'appelais mon fils. Mais plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Et moi j'avais appris à marcher à Éphraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Le prophète Osée. Tout contre leur joue. Il existe, à côté de la tendresse maternelle et paternelle, une tendresse fraternelle ou amicale qui connaît aussi des étreintes fortes, mais non sensuelles. La tendresse humaine n'est jamais immatérielle, car nous sommes notre corps. Cependant, elle n'est pas forcément liée à la vie sexuelle. La tendresse est peut-être le plus beau des mots dont nous disposions pour exprimer la qualité humaine de l'amour pour autrui, tant dans le mariage que dans la famille et dans l'amitié. Et avec le diocèse de Toulouse, nous étions à Rome en courant du mois d'octobre, donc il n'y a pas longtemps, et nous avons participé à l'audience générale du pape François. Et au début de cette audience, où il parlait des psaumes, il a quitté ses notes et puis il a regardé, il y avait un petit bébé qui pleurait dans la salle Paul VI. Et là, il a dit, voilà une maman avec son enfant, et ça, pour le tranquilliser, la maman a dû lui donner le sein, je crois. Et le pape a parlé de la tendresse humaine dont nous avons besoin, cette tendresse dont il a parlé lui-même dans la première homélie qu'il a prononcée au moment où il inaugurait son service pontifical le 19 mai 2013, comme nous savons, la tendresse humaine. À nous, chers auditeurs et chers frères et sœurs, de recevoir cette tendresse de Dieu et de la transmettre et de la vivre entre nous.